Cinésique Radio, le panorama des BO par Benoît Basirico.
Bienvenue à l'écoute des podcasts de Cinésique Radio sur cinésique.fr et toutes les plateformes. N'hésitez pas à laisser vos notes et commentaires et à nous écrire via Cinésique sur Facebook ou Twitter. Ce programme est consacré à la musique électronique au cinéma en deux chapitres, international et français.
Tout cela est un peu abstrait. Nous vous avons fait aussi bien que nous pouvions.
Panorama BO, les musiques de films électroniques, première partie à l'international. Notre sélection de 20 BO conçus par ordinateur, synthétiseur ou autre appareil digital. Notre sélection donc constituée dans sa majeure partie de musique originale, instrumentale, dans le registre électro donc, et un seul choix par compositeur pour marquer justement l'éventail des styles et des univers. On commence donc au début, chronologiquement, avec, en 1956, Planète Interdite. Planète Interdite, film de science-fiction, donc d'extraterrestres, de nouvelles planètes, et donc c'est Louise Baron et Bébé Baron qui ont écrit la partition des Américains, considérés comme des pionniers de la musique électronique et d'enregistrement sonore sur bande magnétique, avant donc la création des synthétiseurs. Avec Planète Interdite, ils sont à l'origine de la première BO entièrement électronique. La technologie musicale employée n'était alors qu'à son balbutiement, la musique électronique au cinéma prenant son ampleur qu'au milieu des années 70, 20 ans plus tard. Auparavant, les instruments électroniques, notamment le theremin, comme Miklós Rocha l'a pu l'utiliser dans Spellbound d'Alfred Hitchcock en 1945, ou encore Bernard Herrmann sur Le jour où la Terre s'arrêta en 1951, le theremin donc était l'ancêtre des instruments électroniques au sein d'un orchestre traditionnel. Louis et Bébé Baron ont manipulé les sons de manière électrique, en manipulant les circuits sur la bande. Écoutons donc cette Planète Interdite. Nous sommes en Russie avec Edouard Artemiev, Solaris, donc, qui marque à 34 ans pour le compositeur sa première collaboration avec le cinéaste Andrei Tarkovsky, avant de le retrouver sur Le Miroir ou encore Stalker. 3 ans après le choc du 2001 Odyssée de l'espace de Stanley Kubrick, le cinéaste russe voulait faire une autre proposition. Ainsi, au lieu de convoquer des titres existants de musique classique comme le modèle américain, il choisit de réinventer tout un univers dans sa dimension sonore, à travers la planète fictive Solaris pour laquelle le compositeur construit un paysage sonore électronique à la fois réaliste et préservant son mystère. Oubliant les codes de la narration musicale, la partition joue sur les distorsions et les dissonances. L'envoûtement des notes cristallines et texturales accompagne une réflexion métaphysique. Solaris, donc, c'était la musique d'Edouard Artemiev. Après la Russie, maintenant l'Allemagne, avec Werner Herzog, Aguirre, La colère de Dieu, en 1972, musique de Popol Vuh. Le groupe allemand Popol Vuh, proposant un rock expérimental en Allemagne dès la fin des années 60, et donc ses deux membres, Florian Fricke au clavier et le multi-instrumentiste Daniel Fischl-Steiner, rencontrent le réalisateur allemand Werner Herzog en 72 sur ce film. Ils se retrouveront ensuite sur Cœur de Verre, Nosferatu, Fitzcarraldo ou encore Cobra Verde. Ils imitent leurs cousins germains, Tangerine Dream ou Klaus Schulz, qui ont eux aussi pu apposer leurs atmosphères électroniques et minimalistes au cinéma, on les entendra d'ailleurs dans un instant. Pour cette première collaboration, donc Herzog-Popol Vuh, il s'agissait d'accompagner les aventures des conquistadors en Amazonie, dont celui illuminé mégalomane interprété par le démentiel Klaus Kinski. Les nappes électroniques quasiment cosmiques visaient à représenter la quête d'un Eldorado, un monde merveilleux. Ainsi, par contraste, la quiétude de la musique n'annonçait pas le danger à venir et la confrontation avec les Indiens. L'aspect méditatif de la partition, toujours propice à la transe et à l'hypnose, accompagne la lenteur de l'expédition au radeau. Et cette musique est en opposition avec le caractère hystérique du personnage central de Kinski. La musique donc est douce alors que le personnage s'agite et crie. Aguirre, La colère de Dieu, un voyage hypnotique.
Thank you.
Assaut en 1976 de John Carpenter. John Carpenter a seulement 28 ans, mettait en place son style musical en élaborant lui-même la partition. John Carpenter, réalisateur et donc compositeur, qui compose la musique que pour la seconde fois après son premier film Dark Star. Une partition électronique donc radicalement minimale. Il se contente de quelques notes, textures, accords au synthé pour entretenir une tension. La musique est pertinente car elle fait partie intrinsèquement de la mise en scène. Le travail, loin d'une partition sophistiquée, est binaire, dans la mesure où il consiste très souvent à organiser l'alternance entre la présence et l'absence de musique, comme plus tard d'ailleurs pour soutenir l'horreur de Halloween, The Fog ou encore Christine. La question de l'emplacement est alors chez lui primordiale. C'est par la juste place des notes que la peur survient. Lorsqu'une nappe anticipe une attaque pour entretenir le suspense, ou au contraire, lorsque la musique cesse pour laisser la place à un silence effrayant. Ces boucles entêtantes au minimalisme total sont un soutien pour l'action et la tension de ce film policier à la violence insoutenable. La musique électronique, donc, fait partie du style inhérent au cinéma de John Carpenter. Il troquera l'électronique plus tard pour les guitares un peu plus rock, comme Ghost of Mars ou Vampire. C'était donc Assaut en 76. Dans la même lignée, mélangeant l'horreur et l'électronique, il y a Le Convoi de la Peur en 1977 de William Friedkin avec la musique du groupe allemand Tangerine Dream. J'évoquais Tangerine Dream comme un cousin proche de Popol Vuh tout à l'heure pour Herzog. Alors donc là, c'est une adaptation du Salaire de la Peur de Clouzot avec Roy Scheider, Bruno Kremer et Francisco Rabal. Et donc Tangerine Dream signe sa première BO pour ce film de William Friedkin, connu pour leur musique répétitive et planante. Cette formation électro a créé sa musique avant même que le film soit tourné, à partir du script. Cela a permis au réalisateur de faire écouter la musique à ses acteurs lors des prises dans la jungle. Ainsi, la musique a pu conditionner l'état d'esprit et le rythme du film dès les prémices. Les notes synthétiques, synthé, mélotron, infusent dans chaque plan une atmosphère particulière, menaçante, crépusculaire. Mystérieuse et chaotique, la partition intègre malgré tout de belles mélodies et harmonies. La musique électronique est trop souvent devenue un moyen de se contenter de textures souterraines, se confondant avec le sound design, abolissant toute idée de thème. Pourtant, lors de l'émergence de cette musique digitale dans les années 70, et on l'écoutera tout à l'heure avec Vangelis par exemple, les musiciens ne se privaient pas d'inscrire leur écriture dans un développement narratif, ne résumant pas leur travail à une illustration purement climatique. Tangerine Dream, on a pu aussi les apprécier dans Aux frontières de l'aube, film de vampire de Catherine Bigelow. Et là, il s'agit du Convoi de la Peur.
Thank you.
L'électronique donne lieu à des partitions très expérimentales et très singulières, avec des expérimentations donc sonores. Et donc là, on vient d'entendre une musique des Goblins, le groupe italien des Goblins, qui s'est fait connaître dans les films d'horreur de Dario Argento, Profondo Rosso notamment, ou encore Suspiria. Et donc là, c'était Zombie de Romero. Romero, évidemment, le maître des zombies avec La Nuit des Morts Vivants. Là, c'est le troisième opus, Dawn of the Dead, après Le Jour des Morts Vivants. Dans ce film de zombies, les musiques électroniques et synthétiques rythme les pas des morts vivants et tourne l'horreur en dérision pour donner lieu à une satire de la société de consommation. Mille neuf cent soixante-dix-huit, c'est la date clé, l'année clé pour la musique électronique à Hollywood, puisque la musique électronique obtient son premier Oscar. Il s'agit de Midnight Express de Giorgio Moroder. Le grand producteur disco italien Giorgio Moroder retrouve Alan Parker en 78 après les chansons de la comédie musicale Fame, où il excellait dans les mélodies et les arrangements percutants. Ici, il propose des instrumentaux exclusivement composés pour des synthétiseurs. C'est d'ailleurs la première partition à Hollywood intégralement composée avec des synthétiseurs. Cette partition remporte donc l'Oscar de la meilleure musique de film et annonce le début d'une série pour le compositeur. On a pu le retrouver chez Paul Schrader avec La Féline, ou encore Brian De Palma avec Scarface. Il a fait naître un son Moroder inégalé qui a pu colorer les films de son empreinte. Pour ce drame carcéral, avec Brad Davis en prisonnier, les sonorités synthétiques contribuent à une ambiance poisseuse de prison, à l'angoisse véhiculée par les couloirs exigus. Cette musique oppressante est dans la peau du prisonnier. Elle épouse sa fuite en avant, elle colle à sa cavale lorsqu'il tente d'échapper aux autorités turques. Midnight Express, donc, musique de Giorgio Moroder. Après l'Oscar pour la musique électronique de Moroder sur Midnight Express, dans les années 80, la musique de film électronique devient presque hype, à la mode, et les grands studios s'en emparent. 1982, donc, là, c'était Tron. Donc, c'est les studios Disney qui, pour ce film de science-fiction, invite Wendy Carlos à faire la partition. Wendy Carlos, 10 ans plus tôt, il avait signé la musique de Orange Mécanique, notamment des reprises de Rossini, notamment. Et donc, Walter Carlos, devenu Wendy Carlos, écrit le score de Tron, film de science-fiction de Disney qui met en scène un programmeur de jeux vidéo dans un univers informatique complètement futuriste. La partition mélange donc des émotions électroniques avec une certaine ampleur symphonique sous-jacente. 1982 toujours, il s'agit de Blade Runner, autre épopée de science-fiction, avec évidemment le compositeur grec Vangelis, avec Harrison Ford, Roger Hauer et Sean Young. Le compositeur grec, considéré comme un pionnier de la musique électronique, enchaîne des films internationaux depuis le succès et l'Oscar remporté pour Les Chariots de Feu en 81. Avec ce score futuriste et atmosphérique, première collaboration avec Ridley Scott, avant leur retrouvaille 10 ans plus tard sur 1492 Christophe Colomb, il signe sûrement sa meilleure BO parce qu'elle s'échappe d'une fonction accessoire pour véritablement coller à l'atmosphère du film au point de se confondre avec le décor. Même si on entend dès l'ouverture le célèbre thème, celui-ci ne se retrouve pas développé au cœur du film. Il représente ainsi une identification en introduction avant une plongée dans l'immatériel. C'est une ambiance, un climat, c'est quelque chose de physique. Blade Runner, musique de Vangelis. Nous sommes maintenant au Japon avec un film de Nagisa Oshima, Furio, Merry Christmas Mr. Lawrence, en 1983 avec la partition de Rishi Sakamoto, grand compositeur japonais qu'on a connu avec Le Dernier Empereur, notamment de Bertolucci. C'est la première collaboration du compositeur japonais avec donc son compatriote Oshima avant de se retrouver plus tard sur Tabou. Film avec David Bowie, nous sommes en 42 dans un camp de prisonniers américains. L'audace de cette partition, c'est le mélange entre les sonorités électroniques avec des sonorités traditionnelle japonaise. Voilà pour Furio, musique de Rishi Sakamoto. On continue avec le genre du film fantastique, 1984, date clé avec Terminator et la musique de Brad Fiedel. C'est évidemment à la réalisation James Cameron, première collaboration avec Brad Fiedel avant de se retrouver sur le deuxième opus Terminator 2 et aussi True Lies en 1994. Trois films de la collaboration Brad Fiedel et James Cameron et avec Arnold Schwarzenegger au casting. Terminator donc, et on va reconnaître évidemment le célèbre thème.
panorama des BO par Benoît Basirico.
Les notes d'électronique sont écrites par l'allemand Klaus Schulz et ces notes électroniques dans le film accompagnent le psychopathe. Le film s'appelle Schizophrénie, Angst en VO, 1984. Compositeur allemand donc Klaus Schulz qui écrit cette musique pour l'unique film de l'Autrichien Gerhard Karlg, un film devenu culte, découvert d'ailleurs pour ma part dans la fin des années 90 en ayant dégoté dans un cache converteur une vieille VHS. Film que je croyais très rare et qui finalement a rejailli avec l'ère numérique actuelle. Et il y a eu même une ressortie en salle et j'ai pu le revoir dans la salle de l'hôtel de ville, le Luminor, lors d'une soirée d'une association et le découvrir sur grand écran. Cette musique de Klaus Schulz prend tout son ampleur avec à l'image donc une caméra qui traque avec un harnais comme ça qui tourne autour du criminel. Une mise en scène très audacieuse et je découvrirai d'ailleurs plus tard après avoir découvert le film que Gaspard Noé, c'était son film culte et il s'est inspiré de cette manière de filmer pour son seul contre tous. On continue donc le panorama des musiques de films électroniques, première partie à l'international, avec un compositeur méconnu, Harold Faltermeyer, mais tout le monde connaît son fameux thème pour Le Flic de Beverly Hills. Alors je n'ai pas choisi Le Flic de Beverly Hills en 1984, mais trois ans plus tard, avec Arnold Schwarzenegger, c'est The Running Man. Unique collaboration entre Harold Faltermeyer et le réalisateur de ce film, Paul Michael Glaser. C'est un thriller de science-fiction adapté de Stephen King, avec une participation électronique très 80s.
12:50, press return.
Musique de Clint Mansell à l'instant. Clint Mansell pour Pi. C'est le premier film de Darren Aronofsky qui marque le début d'une fructueuse collaboration entre les deux artistes, hein, puisque Clint Mansell et Aronofsky feront ensemble le cultissime Requiem for a Dream. Et avec moi, j'accueille Thibaut Vic. Thibaut, bonjour.
Bonjour Benoît.
Tu as souhaité commenter cette partition donc de Clint Mansell.
Oui, parce que c'est un registre, enfin l'électro est un registre assez particulier pour Clint Mansell parce que c'est pas vraiment son fond de commerce pour la suite. Ici dans Pi, donc il s'est entouré voilà d'autres artistes électro et il offre une BO très expérimentale avec toutes les possibilités de l'électronique. Avec des rythmes aux confins du trip-hop et de l'acid house technologique. Donc voilà, c'est très ancré dans les années 90 et il crée une sorte de collage métaphysique et paranoïaque, donc un collage de métaphysique de la ville, de toutes les possibilités qu'il peut y avoir de son au sein de la ville et de tout ce qui peut faire tourner le monde. Donc c'est assez étonnant d'avoir cette musique sur ce film à base de formules, de symboles. Et ce film qui est finalement un huis clos à la fois en intérieur mais aussi à l'intérieur d'un même personnage.
Pi, donc musique de Clint Mansell. Et on continue, on se dirige maintenant vers Taïwan avec Ousia Ossien, avec la musique de Lim Gyong, qui est un DJ chinois, et il a travaillé avec Ousia Ossien sur Millennium Mambo. Ousia Ossien qui est plutôt justement dans le réalisme poétique, et là son cinéma avec cette musique électronique technoïde de Lim Gyong, le cinéma de Ousia Ossien se pare d'une dimension pop qu'il n'avait pas auparavant. Et cette musique électronique pour le Millennium Mambo est très envoûtante, très enivrante, et on est bercé comme ça par les images grâce à la musique de Lim Gyong. Fight Club, musique de The Dust Brothers pour le film de David Fincher. David Fincher, après avoir collaboré avec Watcher sur Seven, The Game ou encore Panic Room, il fait appel à ce groupe The Dust Brothers. Il fait appel à ce groupe donc de musique électronique trip-hop qui livre cette partition à la fois mélancolique et ludique conçue par les ex-producteurs des Beastie Boys et de Beck, les Dust Brothers donc, qui sont autres que Michael Simpson et John King. Et il s'amuse donc à nous livrer cette électro sous acide pour le film Fight Club avec Brad Pitt, Edward Norton ou encore Helena Bonham Carter. On reste d'ailleurs avec David Fincher, c'est après Fight Club que David Fincher continue dans la veine de l'électronique, hein, puisqu'ensuite ils ont collaboré, David Fincher a collaboré avec Trent Reznor et Atticus Ross. Alors il y a eu The Social Network et l'Oscar remporté pour la musique de The Social Network. Et j'ai préféré à Social Network vous diffuser la musique de Millennium, Les Hommes qui n'aimaient pas les femmes, The Girl with the Dragon Tattoo. C'est une adaptation hein, du film danois. David Fincher donc il retrouve Trent Reznor et Atticus Ross avec ce film avec Rooney Mara, Daniel Craig et Christopher Plummer, et on retrouve donc tout l'univers de Trent Reznor et Atticus Ross, cette musique électronique envoûtante, Millennium. marque de Disaster Piece pour It Follows. On entend à la fois de la musique électronique et puis un thème, un motif qui revient plusieurs fois. Alors Disaster Piece, donc artiste de musique électronique, Rich Vreeland pour son nom d'origine. C'est le deuxième long métrage de David Robert Mitchell, avec donc cette musique synthétique expérimentale sortie tout droit des années 80. On pense évidemment à John Carpenter, puisqu'on est évidemment dans le registre du film d'horreur, avec cette musique électronique et anxiogène, la musique qui constitue un personnage à part entière, n'est-ce pas Thibaut ?
Tout à fait, Benoît. Et effectivement, David Robert Mitchell avec It Follows renouvelle un peu les codes du film d'horreur comme Carpenter l'a fait dans les années 80. Ici, avec les possibilités de l'électronique dans la musique, dans cette musique de Disaster Piece, on peut à la fois créer un motif, créer des sillages, puisque c'est le sujet du film. On est constamment suivi par quelqu'un, donc il y a toujours quelque chose qui traîne derrière, mais toujours avec les codes du film d'horreur, avec les crissements, avec les bruissements, avec les grésillements. Mais parfois il y a des pièces plus burlesques aussi, des courses folles comme dans un jeu de plateforme, une utilisation des orgues. Et finalement, ces stridences et ces réverbérations créent un univers à part entière dans le film. Et le personnage de Jay, donc, qui est constamment suivi par cette musique, par des personnages, ça crée une sensation de multitude pour le spectateur. Et comme si le spectateur était lui-même suivi et à devoir courir pour sa propre vie.
Autre partition culte. Et tandem culte, il s'agit de Cliff Martinez avec Winding Refn. Alors on aurait pu vous diffuser Drive, on aurait pu vous diffuser Only God Forgives, mais j'ai choisi pour vous Neon Demon, qui est peut-être pour moi la collaboration la plus complète, la plus entière, avec Elle Fanning et Jenna Malone dans le monde de la mode. Et Winding Refn livre une satire du monde de la mode. La musique a ce côté très propre, et donc l'électronique convoque ce côté en apparence très propre, très lumineux du film, mais derrière, il y a des aspérités qui lorgnent, là encore, avec le thriller horrifique. Thibaut.
Oui, et moi je qualifierais plutôt cette musique de Cliff Martinez comme une piste aux étoiles électrocosmique fétichiste pour en complète adéquation avec l'esthétique un peu porno-chique du film de Winding Refn. Et ça fonctionne vraiment très bien parce que c'est une musique de tintement, c'est une musique de la course à l'innocence et à l'émancipation. Finalement, avec des nappes, des rythmes secs, on a à la fois de la hype, du cool, de la gêne, et tout est très ambigu, mais tout est très superficiel à la fois, et il y a vraiment cette polysémie du film de Winding Refn qui se retrouve dans cette musique. Sous forme de tripes, sous forme de sensations, d'instruments désaccordés. Il y a un motif, bien sûr, qui revient souvent comme un effet qui sort des abysses. Et on a aussi cette impression de latence et de latente comme pourrait avoir un modèle pendant une séance photo, le moment où elle se fait prendre en photo et où elle pense à autre chose, qu'elle vit autre chose, ce qui est très bien montré dans le film d'ailleurs.
Tout à fait. Donc, et Cliff Martinez, rappelons-le, c'était également le compositeur de Steven Soderbergh, hein, Traffic, Solaris notamment. Martinez donc pour Winding Refn avec Neon Demon. Thank you. Nous sommes ici en Espagne avec le compositeur Olivier Arson, qui est un compositeur français mais installé en Espagne. Et c'est un compositeur fidèle, régulier du réalisateur espagnol Rodrigo Sorogoyen. Ils avaient fait déjà ensemble en 2016 Que Dios nos perdone. Et là donc c'est El Reno, sorti en 2019, une partition électronique envoûtante, un rythme techno qui instaure une tension pour ce polar haletant. Thibaut, c'est une partition qui faisait partie en 2019 de ton bilan de l'année, hein, partition épatante, n'est-ce pas ?
Oui, complètement. Déjà, c'est le film que j'ai préféré en 2019, avec toute cette tension palpable. Et ce que j'aime beaucoup avec cette musique, c'est vraiment le décalage par rapport à l'image, mais qui en dit long sur les volontés, les aspirations de ce personnage de politique corrompu jusqu'à l'os. Et en fait, cette musique est à travers 6 pistes. Dans ces 6 pistes, on a une évolution lente avec ce rythme, ce thème qui revient régulièrement, mais qui exprime l'exercice du pouvoir à travers le divertissement, comme si on était dans des tunnels, comme si on était dans l'arrière-boutique d'une boîte de nuit un peu sordide. Il y a vraiment ce rythme entêtant, ces nappes gazeuses, mais qui parfois sont rehaussées d'accords de films d'horreur un peu loin, donc des accords un peu angoissants. Et d'ailleurs, voilà, Olivier Arson a reçu un Goya pour cette musique. Donc l'année dernière.
Merci Thibaut.
Merci à toi.
Ainsi se termine donc notre panorama des musiques électroniques, première partie à l'international.
Je suis un ami de Sarah Connor. On m'a dit qu'elle était ici, je peux la voir?
Non.
Je reviendrai.
Et pour terminer ce panorama des musiques électroniques au cinéma, partie numéro 1 à l'international. À l'international et en même temps une coproduction française, donc avec ce choix bonus Atlantique, BO donc récente, hein, puisque cette musique est d'un film sélectionné à Cannes en 2019, Atlantique de Mati Diop. Et la partition est signée Fatima Al-Kadiri, en fait, qui est donc une artiste de musique électronique, qui est née au Koweït et qui vit à Dakar, en Sénégal. C'est un poème social fantastique, premier long métrage de la franco-sénégalaise Mati Diop. Et cette partition illustre cette histoire de fantômes et de disparition par des nappes hypnotiques prolongeant le climat onirique. La couleur texturale prédomine, mais subsistent des lignes mélodiques enivrantes qui nous mettent dans un état de méditation. La présence, pour clôturer ce podcast, donc d'Atlantique est très cohérent, puisqu'on retrouve chez Fatima Al-Kadiri une prolongation de ce que l'on vient d'entendre dans ce podcast à l'international. C'est-à-dire qu'on retrouve les envoûtements électroniques, notamment de Vangelis. Merci de nous avoir suivis et retrouvez donc tous nos podcasts sur toutes les plateformes, notamment la partie numéro 2 de ce panorama qui est consacrée exclusivement aux artistes français.
Yeah, with them and all of those.